Moi, j'ai pris totalement cette
Bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs au cours de la dernière conférence des gouverneurs des provinces tenue à Kinshasa à la fin du mois du dernier. Le gouvernement recommandait de rendre opérationnels les tribunaux de paix dans tous les territoires de la RDC. Ces tribunaux considérés comme juridiction de proximité ont pour mission primaire de rapprocher la justice des justiciables. Ces tribunaux auront également un rôle important de trancher les contentieux électoraux pour les élections locales prévues fin 2012-2013. Qu'attendez-vous de ces tribunaux de paix? Voilà la question pour lancer notre émission. Notre invité est M. Donatien Beau, un magistrat honoraire à la Cour suprême de justice. Si c'est Foucault et Sylvain Matondou réalisent l'émission, Marie-Chantal Mba vous la présente.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Donatien.
Bonjour, madame.
Nous allons parler aujourd'hui des tribunaux de paix. Nous savons que la RDC actuellement compte plusieurs tribunaux de paix. On fait allusion même à une centaine, mais pour l'instant, certains sont fonctionnels et d'autres pas encore. Néanmoins, selon le ministère de la Justice, l'État congolais entend installer au moins un tribunal de paix dans chaque territoire et atteindre ainsi, avant les élections, plus de 200 tribunaux de paix. Dis-nous en bref, qu'est-ce que d'abord un tribunal de paix?
Un tribunal de paix, c'est une juridiction, comme vous le savez. Ça a l'air aussi de juridiction existant dans notre pays. Nous avons au plus bas de l'échelle le tribunal de paix, prévu pour être installé à chaque chef-lieu du territoire. Et nous avons dans chaque chef-lieu du district un tribunal de grande instance. Nous avons au niveau d'une province, au chef-lieu, une juridiction qu'on appelle la cour d'appel. Et au sommet, nous avons la cour suprême de justice. Ça, c'est du côté siège. Et vous avez du côté parquet, le tribunal de paix au bas. C'est office d'une juridiction et de l'office. C'est-à-dire les magistrats qui sont là-bas posent les actes comme officier du ministère public, en même temps ils posent les actes comme juge. Au niveau du district, nous avons un parquet près du tribunal de grande instance. Et au niveau de la province, nous avons une cour d'appel. Et au niveau du sommet à Kinshasa, nous avons un parquet général de la République.
Donc ça signifie que c'est hiérarchisé. Donc le tribunal de paix, c'est le tribunal de proximité, comme j'ai dit en introduction. Et quels sont en fait les conflits que peut trancher un tribunal de paix? Est-ce qu'il y a un certain degré, il y a des genres de conflits? Quel genre de conflit un tribunal de paix peut trancher?
En fait, au niveau du tribunal de paix, en matière pénale. Il y a des infractions dont le maximum de la peine est de 5 ans. Alors, en matière civile, le maximum ne dépasse pas 5 000 francs. Alors, vous avez la délinquance juvénile, vous avez une matière coutumière, là, on s'adresse à un tribunal de paix qui, souvent, est composé en termes de magistrats de carrière, de notables désignés par le ministre de la Justice. Et ces matières désignées sont en plus de juges et fonctionnent au sein du tribunal de paix.
Oui, et aussi dans des endroits où il n'y a pas un tribunal de paix, dans ces milieux, quelle est la juridiction qui fait office d'un tribunal de paix?
Là, dans un coin où il n'existe pas un tribunal de paix, on va au tribunal de grande instance.
Directement.
Directement au tribunal de grande instance. C'est ça qui fait que si le gouverneur veut dire que l'on me connaît pas, dans chaque territoire, un tribunal de paix qu'ils appellent une juridiction de proximité, ils ont raison. Parce que vous avez, connaissant l'étendue de notre pays, souvent entre un territoire de chaque lieu de district, il y a des centaines de kilomètres à parcourir, il y a des cours d'eau, il y a des soucis, et les gens sont obligés d'aller très loin.
Mmh.
Et du fait que la juridiction se trouve assez éloignée de l'endroit où l'infraction, où le conflit est né, peut disparaître l'aspect instantané de la justice.
Il y a même des preuves qui peuvent disparaître et ça peut être difficile à ce moment-là de retrouver.
Oui,
alors aujourd'hui, nous en parlons, nous avons des auditeurs qui vont donner leur avis. Qu'est-ce qu'eux, ils attendent de ces tribunaux de paix? C'est vrai qu'il y a dans certains endroits où on n'a pas encore installé, mais il y a un vaste programme du gouvernement qui entend installer des tribunaux de paix dans tous les territoires, mais parce qu'il y a aussi des territoires qui sont assez vastes, hein. Il faudrait peut-être deux ou trois tribunaux de paix, et nous posons la question: qu'attendez-vous de ces tribunaux de paix et qu'est-ce que vous proposez pour que ces tribunaux de paix soient installés d'une manière au plus rapidement possible, parce que c'est pas seulement pour les élections, mais aussi pour gérer le quotidien, réglementer la société en cas de conflit. Qu'est-ce que vous proposez? Nous avons déjà Serge qui se trouve à Kinshasa, et ainsi que tous les autres auditeurs qui veulent participer à cette émission.
Parole aux auditeurs. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radio4.net.
Et Serge se trouve déjà en ligne. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour aux auditeurs de Radio Kapi, bonjour à l'invité.
Serge, dites-nous, à Kinshasa nous avons déjà certains tribunaux de paix, et vous, qu'est-ce que vous attendez de ces tribunaux de paix qui sont déjà installés?
Madame, comme tout Congolais, nous espérons que ces tribunaux vont rendre justice, la vraie justice alors. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a une problématique de l'indépendance de ces tribunaux. Nous trouvons que tous ceux qui travaillent au sein de ces tribunaux, comme magistrats, avocats, tout ça, ne sont pas indépendants par rapport à leur activité, madame. La plupart sont de gens qui viennent d'une famille politique, ou soit qui ont été nommés par les responsables des familles politiques. Alors, ils désorientent plutôt leur action vers la satisfaction de ces leaders qu'ils ont mis dans ces tribunaux de justice, madame. Alors, nous demanderons à ce qu'il y ait tout d'abord l'indépendance totale de ces tribunaux, mais aussi nous demanderons à ce que tous ces gens qui travaillent là-bas soient motivés, madame. Ils ne sont pas motivés, comment est-ce qu'ils vont rendre un bon service à la population qui... Prenons le cas des délinquants, parce que l'invité a parlé des délinquants. Tous ces délinquants, lorsqu'ils sont arrêtés, on les amène dans ces tribunaux de paix. Mais madame, après un jour ou deux jours, ils sont restés. Parce qu'il y a, par exemple, un tel monsieur, autorité de l'État, ou bien l'autorité publique, qui a donné l'ordre à tel avocat, à tel monsieur de délibérer les délinquants. Vous trouvez qu'il y a un problème d'indépendance, mais aussi un problème de motivation. Il ne suffit pas d'avoir des tribunaux, mais il faut que ces tribunaux exerce à l'indépendance, mais aussi avec une motivation. C'est pas l'effectivité d'avoir des tribunaux qui est impérieux, mais c'est le travail, le rendement de ces tribunaux vis-à-vis de la population, madame. Voilà un peu ma préoccupation.
Merci, Serge. Vous doutez de l'indépendance de ces tribunaux, mais aussi vous souhaitez que les personnes qui travaillent dans ces tribunaux soient motivées, et vous avez fait allusion à l'interférence de certaines autorités. Notre invité va répondre à votre préoccupation. On a eu le temps d'écouter aussi Pasteur Timothée Kouba-Kinshasa et Théodore. Pasteur Timothée, bonjour.
Bonjour Maman Chantal, et tout le monde qui est auprès de vous, c'est Timothée Ndibitudia-Kanana. Je voudrais aussi intervenir concernant le tribunal de paix, comme un tribunal de proximité, comme vous l'avez dit bientôt. Et cela doit être aussi implanté, si c'est le cas, dans toutes les localités qui se trouvent dans chaque province, pour mieux juger et traiter les problèmes sociaux qui se trouve parmi les gens. Et puis, si ce n'est pas ça le cas, si c'est pour les élections, vous voyez que les années passées, il y avait les gens qui avaient fait le truc pour violer les élections. Même les gens chargés, les députés, voulaient aussi intervenir auprès des sites pour gagner les gens à leur profit. Alors, on peut aussi implanter le tribunal là pour essayer de maintenir la sécurité au moment des élections. C'est bien de le faire. C'est ça mon point de vue.
Merci, Pasteur Timothée. Théodore de Tambourimé, bonjour.
Bonjour, monsieur, madame, je vous remercie.
Oui, nous vous écoutons.
Oui, oui, nous saluons cette mesure de tribunal de la proximité selon la conférence du gouverneur. Mais ici, chez nous, nous avons beaucoup de plaintes. Parce que le premier qui est là, il croit. Nous avons d'un côté les magistrats, nous avons les juges, et puis nous avons la police qui garde le cachot. Bon, une fois que le problème est tranché au niveau de magistrats, on garde les détenus dans les cachots. Mais le problème que nous remarquons ici, nos cachots ne sont pas bien surveillés ou bien visités. Quand vous présentez pour remettre à manger, par exemple, la nourriture aux détenus, vous trouvez les chefs de poste qui exigent, par exemple, pour donner quelqu'un, vous achetez les foufous de 1000 francs. On vous demande pour donner à manger 1500, 2000 francs. Et vous rentrez chez le magistrat pour dire, mais nous amenons la nourriture au cachot. Mais on complique, on dit, non, allez, le magistrat vous dit, non, allez vous arranger avec les chefs de poste. Alors, à ce moment-là, nous dirons que le juge est au service du peuple, ou bien il est au service de quelqu'un. Et puis, s'il y a le ministère public, par exemple, lors des manifestations et consorts, on arrête les gens en pêle-mêle, même les innocents, on les met dans les cachots. Le ministère public est là. Mais vous trouvez que ces gens-là seront gardés une semaine, deux semaines, pas intervention, on les met dans la prison. Les gens arrêtés, les innocents, comme ça. Alors, cette fois, nous demandons que c'est une bonne mesure, mais qu'on essaie d'améliorer les salaires des magistrats, des juges, et puis améliorer les conditions de détenus dans les cachots. Par exemple, ici, en prison, notre prison de Mbujimayi. Si vous passez par là, tous les urines, tous les cacas, ça sort en dehors, ça passe comme ça sur la voie publique, les odeurs, il y a l'hôtel du gouvernement à côté là, les odeurs partout là, tout ça. Alors voilà un peu, nous voulons qu'on puisse améliorer tout ce que j'ai énuméré.
Merci beaucoup Théodore, donc je voulais avoir plus de précision, la relation entre les cours et tribunaux ainsi que les milieux d'incarcération. Nous remercions d'avoir participé à cette émission. Maïchir de Tabeli, bonjour.
Bonjour, Maman Marie, bonjour.
Oui, de Béni, quelle est votre lecture? Qu'attendez-vous des tribunaux des pays?
Oui, Maman, ce tribunal des pays, c'est pas aussi mauvais, oui, c'est bon, mais est-ce que l'État tel que nous connaissons l'État congolais actuellement, quel est demain ce tribunal dans des provinces? Donc, tout ça me vient de nous. Mais le problème est que ce magistrat, est-ce que gens qui vont travailler dans ce tribunal, est-ce qu'ils seront encadrés? Combien de fois nous en avons toujours vécu, il y a des éléments comme là qui créent des magistrats, il y a des arrêtés qui créent des personnes judiciaires. Est-ce que ces gens seront encadrés?
Maïs, vous posez vraiment des questions concernant l'encadrement, les conditions de travail pour les magistrats. Et d'ailleurs, dernièrement, il y avait une marche, hein, les magistrats, c'est quand même quelque chose d'assez qu'on ne rencontre pas souvent. Merci beaucoup, Maïs, et parce que ces magistrats revendiquaient un peu l'amélioration de leur salaire, revoir un peu leur statut. Donc vraiment, c'est un problème criant qu'il faudrait à tout prix trouver une solution, surtout pour des personnes qui vivent la loi. Et vous revenez là-dessus, d'ailleurs presque tous les auditeurs qui sont intervenus sont revenus sur les conditions de travail des magistrats. Nous prenons Gaylor, ce sera le dernier auditeur de cette première série, et puis nous allons redonner la parole à notre invité. Gaylor, bonjour.
Bonjour, Marie Chantal Lumba, je s'appelle la Patrick de Tananga. Bonjour, les magistrats.
Nous vous écoutons, Gaylor.
Alors, je vais un peu intervenir à ce niveau du débat. C'est très bien que l'État congolais ait pensé à l'implantation effective des tribunaux de paix partout. Et moi, je voudrais dire que le magistrat Mesquigou, je vais partager mon point de vue. Mm-hmm. Il faut d'abord, moi, je vais tenir sur le plan logistique. L'État congolais, en voulant, je ne sais pas, installer des tribunaux partout au pays, est-ce qu'il y a des locaux, il y a des structures dans lesquelles ces tribunaux vont effectivement travailler? Parce que je ne sais pas, c'est quand même, lorsque le tribunal de grande centre ici, la cour fait des descentes en chambre foraine, ici, il est sur les arbres, il n'y a même pas de bâtiments pour faire juste une audience foraine. Et maintenant, qu'ils veulent maintenant implanter les tribunaux de paix, est-ce qu'ils ont conçu? Ils doivent commencer par là. Il faut que l'État congolais soit sérieux. Ce n'est pas parce qu'on a dit les droits, je ne sais pas. Pessimiste, mais l'État devait commencer par la construction. Pour mettre quoi, les magistrats vont travailler dans les bonnes conditions. Ça va les éviter à beaucoup de monde. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est sur le plan scientifique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce sont les magistrats qui ont été nommés en 2009 qui seront déversés au siège. On quitte les parquets vers le siège parce que c'est le 2011, ils seront des substituts. Est-ce que les magistrats, sur le plan scientifique, ils ont eu des temps, je ne sais pas, de mieux reconnaissance? Parce que là, ils vont jouer le rôle d'administration publique et de juge. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment un bagage, je ne sais pas, en droit, ils connaissent, ils savent, un professionnalisme. Une expérience pour rendre de bonnes décisions de justice. Sinon, l'État ne se passe pas de nous allons maintenant rentrer à la tête de l'État, ce sera pire. Vaut mieux rester dans le statu quo, au lieu de faire des dépenses aussi, au lieu de d'enfoncer le coup. Sinon, ça sera une casse-tête.
Voilà, merci dès lors d'avoir participé à cette émission.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Et nous revenons dans ce studio avec notre invité, M. Donatien Mbo, qui est un magistrat honoraire. Vous avez travaillé longuement au cours de votre carrière. Vous êtes passé d'une étape à une autre jusqu'à finir votre carrière à la Cour suprême de justice. Donc, vous connaissez très bien comment fonctionne la justice congolaise. Et vous avez suivi nos auditeurs. Ils sont revenus. Ils ont tout essayé. Ils ont des craintes ils doutent de l'indépendance de la justice. Donc, il y a une crise de confiance entre la justice, le justiciable et la personne qui dit le droit. Il y a aussi cet encadrement des magistrats, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer leurs conditions de travail pour qu'ils ne puissent pas être facilement influençables dans leurs décisions. Et puis aussi, ils sont revenus sur les infrastructures, comment nommer, comment mettre en place des CP lorsqu'on n'a pas assez d'infrastructures. Donc, tout cela, nous allons essayer d'y aller thématiquement et étape par étape. Commençons par ce doute d'indépendance de la justice après une trentaine d'années dans la justice congolaise, là où vous avez travaillé.
Madame, à la lumière des textes que la Constitution et la loi organique portant statut de magistrat, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les textes sont clairs. Là, on ne peut pas se doter d'indépendance du magistrat. C'est vrai qu'il y a un terrain. On ne sent pas cette indépendance-là, c'est vrai, mais l'indépendance ne se donne pas. L'indépendance, il faut parler de législatif, comme l'exécutif ne peut pas donner l'indépendance au magistrat ou au pouvoir judiciaire. C'est au pouvoir judiciaire d'arracher son indépendance. Nous avons lutté à notre temps pour arracher cette indépendance. Nous avons commencé à faire appliquer ce statut-là. Vous vous souviendrez, préavant, avec la sortie du nouveau, pas l'actuel Conseil supérieur de la magistrature, la loi organique prévoit que c'est le Conseil supérieur de la magistrature, le seul organe habilité à gérer la carrière du magistrat. Sur le plan disciplinaire, sur le plan promotionnel, sur le plan jusqu'à la retraite, s'il y a erreur, jusqu'à la réhabilitation. Un magistrat qui a été, par exemple, mis en retraite par erreur ou révoqué par erreur, cet organe, statut, relève ces irrégularités et propose au chef de l'État de réhabiliter ce magistrat. C'est le seul organe. Nulle part, il n'est prévu une disposition dérogatoire qui permet soit au pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif de gérer, de s'ingérer dans la gestion du pouvoir judiciaire.
Mais là, on fait allusion au ministère de la Justice.
Ministère de la Justice, c'est ça que je veux. Mais malheureusement, comme j'ai dit, le ministère de la Justice, souvent, a tendance à se mêler dans cette
situation. Nous avons retenu quelque chose de très important. Donc, la justice doit arracher son indépendance. Ça, c'est très, très important. Dites-nous, là, c'est une des comptes aux interférences qui n'est pas constatée. Oui. Donc, c'est la justice qui doit vraiment arracher son indépendance. Et autre chose, la préoccupation de Pasteur Timothy, il voudrait qu'il puisse y avoir des tribunaux de paix dans chaque localité. Que dit la loi concernant l'installation d'un tribunal de paix?
Pour le rappel, madame, par ordonnance numéro 89, je l'ai sous mes yeux, bar 132 portant création de tribunaux de paix dans les zones rurales de la République. Il a été créé 140 tribunaux de paix dans chaque territoire.
C'était à quelle époque?
140 en 1989.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein,
oui, les tribunaux sont créés, mais ils ne sont pas installés effectivement. Ça, c'est un problème réel. Je sais qui vous téléphone, mais
nos
auditeurs, ils ont raison. Ils sont créés depuis 89, mais jusqu'aujourd'hui, il en existe une cinquantaine, soixantaine.
Ils sont fonctionnels.
Oui, ils sont fonctionnels. Alors, il faut des moyens. Ça, c'est au gouvernement. Ils sont créés déjà. Si les gouverneurs s'agissent aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Ils sont créés depuis 1989, 140 par.
Dans chaque territoire, parce que nous en avons 145.
Il y a même, oui, dans un centre, on a créé. Ils sont créés depuis 89.
Maintenant, c'est les rendre fonctionnaires.
Il faut les rendre fonctionnaires, il faut des magistrats. La première chose, il faut des magistrats. Parce que le nombre de magistrats est suffisant, même si on a répété à deux reprises. Alors, ça ne suffit pas. Le magistrat ne peut pas travailler la besoin de l'auxiliaire. Il faut des greffiers, des secrétaires. Il faut les infrastructures.
Oui.
Le bâtiment pour recevoir les services, le bâtiment pour loger. En autre temps, j'étais aussi consulté par le MONUSCO ici. Je trouvais l'intérêt pour encadrer. Le magistrat, le personnel, les UPJ, on a posé ces problèmes-là pour dire quand est-ce qu'on rendrait aux personnels ces obligations.
Il faut des grands moyens. Est-ce que vous pensez qu'avec le budget que nous avons actuellement, avec le pourcentage, c'est moins de 10% alloué à la justice, est-ce que vous pensez que ce sera faisable avant 2012, avant fin 2012?
Non.
Faudrait peut-être chercher des crédits ailleurs.
Oui, soyons réalistes. Et même si on trouvait des crédits, on pourra construire vraiment en un, deux ans, c'est 140, si pas plus de juridictions. Je crois que c'est pas possible, mais c'est la volonté politique.
La volonté politique.
La volonté politique.
Comme vous le dites, donc il faut un magistrat, il faut des auxiliaires.
Oui.
Donc, pour qu'un
tribunal fonctionne
normalement, on a besoin de combien de personnes?
Disons les magistrats, au moins 3-4 magistrats. Pour le secrétaire, un adjoint, au moins 2 agents. Au moins 5-6, au moins une dizaine par juridiction, magistrat et agent. Il faut loger ces magistrats et ces agents.
On revient sur les conditions de travail du magistrat. Dernièrement, il y avait cette manifestation des magistrats. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent parce que c'est vrai qu'on voit souvent les enseignants, les médecins, mais là, les magistrats, les gens qui vivent la loi, qui aussi manifestent. Comment vous avez analysé cela?
Madame, c'est un peu ras-le-bol, hein? Le magistrat, de par sa déontologie, de réserve. Il sait comment il peut poser son problème. Nous l'avons fait, nous continuons à le faire, même nous, si aujourd'hui nous sommes en dehors, on continue à réclamer nos droits. Même les médecins le font en 2008, 2009, continuent à se plaindre. ils n'ont jamais eu tous leurs droits et ils sont sortis.
Mais quand même dans une société, lorsqu'on voit l'homme de la langue, c'est lui qui régit la société. Mais si la personne qui régit la société se sent utilisée, on se pose des questions dans quelle société nous vivons.
Oui, c'est dommage, mais ils ont réclamé, ils ont écrit, ils ont payé de suite. Ils n'utilisent pas cette question-là. Comme on a l'impression que c'est ce mouvement qui réveille ceux qui décident, mais ce n'est pas très propre. Mais dans tous les pays du monde, en France, ailleurs, vous voyez quand le message est passé, il sort. Mais il le fait dans la dignité, dans l'honorabilité.
Il faudrait revoir les conditions de travail des magistrats. Oui, il y a aussi cette question qui nous vient de Mbujimaï avec Théodore, qui voudrait avoir des précisions des relations entre les cours des tribunaux et les milieux d'incarcération. Il a même donné un exemple. Il va voir un frère qui est condamné peut-être en prison, bien prévenu, parce que souvent dans nos prisons, il y a plus de prévenus que de condamnés. Donc il va voir son frère en prison, et il est obligé, avant d'entrer en prison, de laisser quelque chose. Les gens se plaignent au niveau du tribunal, mais on ne comprend pas comment ça fonctionne. Clairement, quelles sont les relations qui lient ces deux structures qui sont un peu souvent, parce que
c'est
complexe, on peut dire ça comme ça.
Oui, madame. En fait, tous les magistrats font son travail. Le magistrat du parquet, il instruit. S'il estime que le prévenu qui est devant lui, le fait qu'il soit retenu sont suffisamment graves et qu'il peut ordonner sa détention préventive, il l'envoie, il lui prive de sa liberté provisoirement, il l'envoie quelque part à un endroit sûr. Alors, il instruit, il termine l'instruction et l'envoie le dossier en fixation. En fixation, c'est-à-dire devant le juge. Il faut avouer le volume d'affaires. Parfois, on ne le réalise pas. Le volume est important d'affaires. Comme on a tantôt relevé, le nombre de messages est souvent insuffisant. Quelqu'un peut faire longtemps dans la prison sans qu'on intervienne. Aujourd'hui, à l'intérieur, plus qu'ici, dans les grandes villes, il y a un peu plus de messages à l'intérieur. Les débouchés ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent qu'avec un seul message. Beaucoup d'entre nous, les messages n'aiment pas nous prendre à l'intérieur.
Mais qu'est-ce qu'ils craignent?
Les conditions de vie. Les conditions de vie ne sont pas toujours très bonnes. Déjà, si on ne connaît pas les jours où l'on touche son salaire, et quand on est à l'intérieur. C'est ainsi que vous verrez dans les grandes villes de Kinshasa, principalement, suivi de Lubumbashi, il y a beaucoup plus de concentration des magistrats. Par contre, à l'intérieur, on a déjà la carence des magistrats. Et ça fait que quand quelqu'un traîne dans en détention, ça donne l'impression que la. Alors, là, au service, quand quelqu'un a été mis en prison, il est à la disposition des services pénitentiaires qui s'occupent de ça. C'est que cette place là-bas échappe souvent aux magistrats. Ces histoires de quelqu'un qui va lui donner la nourriture, on exige ceci ou cela, ça, c'est à l'insu du magistrat. Et c'est vrai, si quelqu'un a été victime de ce genre d'actes et qu'il le dénonce, je sache que le message du parquet réagit.
Normalement, qu'est-ce qu'il doit faire dans ces
cas? Il doit normalement interpeller et vérifier l'information. Parce que tout non plus n'est pas toujours exact quand on dénonce.
Alors, il faudrait vérifier. Et aussi, cette préoccupation de Gaylor, nous avons suivi dans l'actualité, il y a eu plusieurs magistrats qui ont passé un concours et qui ont été affectés pour l'instant dans plusieurs milieux, dans des endroits. Gaylor, tout compte des questions, il est un peu inquiet sur l'expérience de ces magistrats qui viennent à peine d'être recrutés. Est-ce qu'il faudrait un temps pour qu'un magistrat soit vraiment, qu'il puisse prendre des bonnes décisions, parce qu'effectivement, il a un background, donc il a sa licence en droit, peut-être qu'il a pu travailler pendant un moment, et puis maintenant, il a passé le test à la magistrature, aujourd'hui, le magistrat. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer Gaylor?
La plupart des magistrats qui viennent d'être nommés, ils ont fait un stage d'une année. Ils ont fait un stage, ils ont suivi les cours pratiques. Entre les mêmes anciens magistrats, les avocats. Donc, ils ont été préparés pendant une année avant d'entrer en fonction. Donc, de ce côté-là, on peut rassurer Gaylor, si quelqu'un a suivi régulièrement ce stage de formation pendant une année.
Constantement.
Oui, que c'est quelqu'un qui est capable de faire du bon travail de vie. Nous, on faisait notre stage à l'époque. Moi, j'ai terminé mes études, j'étais nommé en 72. On faisait un stage de 6 mois. Alors, on le mettait à disposition d'un ancien magistrat, si j'encadrais. 6 mois après, on le libérait. Et il faut un an. Donc, il ne peut pas avoir peur. Si c'est quelqu'un qui a suivi, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir des règles générales parce que dans tous les domaines, nous trouvons des gens qui ont les domaines qui s'y mettent consciencieusement, tout comme nous trouvons aussi des réalistes pour des raisons qui les sont propres.
Et nous allons écouter d'autres auditeurs qui veulent participer à cette émission. Je rappelle nos contacts, le 081-890-6315 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net.
La Radio Okapi invite tous les partis politiques agréés par les ministères de l'Intérieur, des médias nationaux et internationaux à prendre part ce samedi 10 septembre 2011 à la cérémonie de présentation de la charte électorale de Radio Okapi. La présentation se fera de 10h à 12h dans la salle de fête universelle située sur le boulevard du 30 juin entre l'avenue Angata et le magasin Félix-Fort. Il est demandé aux participants de respecter les horaires annoncés.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Bonjour Germain.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes en Ituri, nous vous écoutons.
Oui, merci beaucoup pour cette disponibilité. Alors, je voudrais participer aussi à cette débat ou à ce sujet.
Oui, alors, qu'est-ce que vous attendez des tribunaux de paix?
Oui, tribunaux de paix, oui, bien, après, c'est une très bonne chose de son installation dans les différents territoires du pays.
Mm-hmm.
Alors, sinon, au début, quand nous avons suivi notre invité du jour, là,
mm-hmm.
Parce que nous voyons qu'il y a des endroits très isolés, alors de manière qu'on ne sait pas atteindre par exemple le tribunal de grand espace directement. Alors, moi, je voudrais m'adresser à l'invité pour savoir quels sont les critères prévus pour le recrutement des avocats.
Les magistrats.
Oui, les magistrats plutôt.
Donc, vous voulez savoir quels sont les critères de recrutement des magistrats. Merci beaucoup Germain, vous aurez une réponse. Restez branchés, connectés sur Radio Okapi. Vous aurez votre réponse tout juste le temps de donner la parole à d'autres auditeurs qui veulent aussi donner leur point de vue. Comme Serge qui se trouve à Kalanga, bonjour.
Bonjour Madame Chantal.
Nous vous écoutons Serge.
Oui, vraiment on est content de votre émission. Et je m'en vais aussi vous dire merci pour cette émission et merci à notre invité du jour.
Mm-hmm.
Moi, vraiment, je déplore d'abord les comportements de nos magistrats ces jours. Ils sont là, comme les CNG de l'énumérer que non, dans tous les territoires de la République, on a établi les cours de tribunaux. Mais ce que nous voyons, c'est quoi sur place? Il y a des fois, si on a arrêté par exemple votre frère, vous arrivez au parquet auprès du magistrat pour d'abord lui demander, vous montrer d'abord comment il a jugé les problèmes, et ce sont les camps de ceux-là des adversaires, quoi. Ils sont là, ils sont en train de marcher derrière les juges, le magistrat, pour leur corrompre tout ça, afin que les juges ne puissent pas établir du bon jugement. Alors, c'est ce qui fait décourage aujourd'hui la population. Et des fois, on se pose la question, est-ce que dans ces pays, il existe vraiment la justice, vraiment, ou ça n'existe pas? Et une chose, aujourd'hui, nous voyons, nous sommes pendant les temps des élections au Congo. La fois passée, on a triché les élections. Et quand le candidat perdant a voulu aller se présenter devant les cours des tribunaux pour faire un peu de recours, nous avions trouvé, on a vu les, quoi, les magistrats qui sont marchés vraiment à l'encontre, tout ça, ils ont donc récité les résultats qui étaient sortis. Alors, cette fois-ci, nous demandons quelle est l'importance des secours des tribunaux pendant cette période des élections ici au Congo. C'est ça, un peu.
Merci, Serge. C'est votre lecture et ce que vous avez constaté à Kalanga. Et vous posez des questions, quel mécanisme pour faire renaître la confiance dans certains justiciables. C'est un peu une préoccupation que vous avez. Ingénieur Mangoyo, vous êtes ici à tous, c'est ça. Bonjour.
Bonjour, Madame Chantal Lumba.
Nous vous écoutons. Qu'attendez-vous des tribunaux de paix?
Oui, merci, madame. Et je voudrais, moi, d'abord, poser la question à notre invité. S'il peut nous dire les rapports qui existent entre les commissariats de police, et les sous-commissariats et les tribunaux de paix.
Uh-huh.
Est-ce que, quelles sont les infractions qui peuvent être, disons, traitées au niveau des échecs de juridiction, soit la première préoccupation, et ensuite générer savoir son point de vue par rapport à l'attitude des policiers commis au niveau des ou affectés au niveau des commissariats ou sous-commissariats, c'est l'attitude qui consiste lorsque il y a des infractions qui sont portées à la connaissance et même en cas de flagrant.
Mm-hmm.
Ces gens parfois traînent les pieds et ne viennent pas. Et parfois ils vous disent que nous n'avons pas assez de logistique, on n'a pas assez de policiers pour venir, par exemple. Le cas des tapages nocturnes, des tapages d'urnes, quand même ça se fait juste à proximité de leur juridiction. Voilà un peu les précautions que j'avais.
Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Mavé, vous êtes à Kalanga, bonjour. Nous avons perdu Mavé, si vous voulez intervenir, il est à Kalanga. Et je rappelle à tous nos auditeurs de Kalanga qui nous suivent sur la 93.0. Il suffit de composer le 081-890-63-15, 081-890-63-15, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Nous allons revenir dans ce studio pour que notre invité puisse donner une réponse à toutes les préoccupations de nos auditeurs.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs.
Et monsieur Donatien, vous êtes avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes magistrat honoraire. Vous avez travaillé jusqu'à la fin de votre carrière. Maintenant, vous avez fini votre carrière à la Cour suprême de justice. Vous avez suivi cette dernière série d'auditeurs, Germain, Serge, ingénieur Mangoyo. Là, il voudrait avoir plus de précisions, comme Germain, sur les critères de recrutement des magistrats. Est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'il faut pour passer un concours et si on arrive à réussir à ce concours, devenir magistrat?
La première chose, il faut avoir sa licence en droit ou un doctorat en droit. Alors, vous déposez votre dossier au ministère de la Justice, vous passez le concours. Quand vous récitez, vous êtes retenu, et à ce moment-là, on prépare, le ministère de la Justice prépare la liste de ceux qui doivent avoir rempli les critères, et qui ont et soumet à la censure du président de la République qui prend une ordonnance de nomination.
Donc, apparemment, pour Germain, je veux savoir, est-ce qu'il y a aussi des conditions sur, par exemple, la probité morale d'un candidat magistrat?
C'est vrai. Là, le Conseil supérieur de magistrature, qui est l'organe, je l'avais dit tantôt, l'unique, qui s'occupe de la gestion, au recrutement, tient compte de tout ce qu'il fait. C'est vrai, quand les gens se présentent devant service proposé, on ne peut pas d'emblée découvrir
qui est
qui. Est-ce que c'est un nom propre, est-ce que c'est un nom problème. Mais il faut entrer dans le corps. Parce que le conseil supérieur en tient compte. Mais déjà, on met le chef surveille chaque magistrat. Surveille. Et le régime disciplinaire est assez rigoureux au sein du corps. Le régime est là, pour un comportement indigne, la façon de boire, la façon de vivre avec les gens, la façon de travailler,
Est-ce qu'il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à une révocation?
Jusqu'à la révocation, madame. Jusqu'à la révocation. Oui, il y a une juridiction disciplinaire. On ouvre le dossier, on vous entend, on compose une juridiction. Le magistrat accusé, oui, la corporation. Le magistrat accusé prend un ou deux ou plusieurs avocats pour le défendre. Il passe devant la juridiction. On est inscrit, on prend le dossier en délibéré, on aura une décision. Si on trouve que les faits ne sont pas établis, on acquitte. Si on trouve que les faits sont établis, on prend les sanctions conformément à la gravité des faits et des reproches. Allant jusqu'à la révocation.
Oui, et là, il y a aussi cette préoccupation de Serge qui a fait allusion à la corruption, qui a fait allusion à la tricherie, ce qu'il a constaté. Il a dit qu'il y a même certains qui ont porté plainte mais n'ont pas pu avoir gain de cause. C'est ce qu'il lui dit. Et il est revenu sur cette confiance qui a un peu disparu entre les justiciables et les juridictions, les cours et tribunaux. Et à votre avis, en tant qu'ancien magistrat, qu'est-ce qui peut être mis en place pour faire renaître cette confiance, par exemple, en la personne de Serge qui se pose des questions?
Je suis content pour la question. Mais les auditeurs qui ont téléphoné tantôt depuis beaucoup se sont préoccupés du sort des magistrats. Ils ont dénoncé même les conditions dans lesquelles le magistrat travaille. Leur salaire, les conditions de vie. Évidemment, ça, ce n'est pas une raison pour ne pas faire correctement son travail. Hein? Ce n'est pas une raison. Honnêtement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais que ceux qui encadrent le magistrat sont appelés à doubler d'énergie pour encadrer et petit à petit élaguer du corps les antivaleurs. C'est vrai, le puits pourri ne manque pas dans un panier. Il y en a, mais. Si le chef, parce que la discipline au sein du corps est très sévère.
Est-ce que vous ne pensez pas aussi que si on arrive à rendre des verdicts qui sont exemplaires plusieurs fois, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est une façon aussi de redonner la confiance?
Qui apprécie la décision rendue?
C'est juste.
Vous avez toujours deux parties, madame. Vous savez, la personne qui a gagné le vous dira c'est que le juge a bien fait son travail. Souvent, c'est lui qui perd.
Sauf que le juge
a fait corrompu, le juge a eu ceci.
Mais quand même, il y a des lois.
Il y a des lois qu'on applique, des règlements. Excusez-moi de parler de moi-même, je me souviens des auditeurs. Je me souviens dans ma carrière avoir connu au moins 3-4 cas des personnes qui sont condamnées, qui après la prison sont passées à la maison de Dieu.
Ah bon? Ça fait témoignage.
Oui, ça, je connais. Le premier cas, je me souviens, c'est encore celui du procureur à Goma, au début de ma carrière. J'étais condamné à quelqu'un. Il a fait 6 mois en prison, je m'en trouve détournement. Après sa prison, j'étais stupide, il est venu souvent à la maison pour me dire merci. Et elle m'admira en disant, moi je vous mentais, je n'ai pas compris comment vous aviez découvert que, effectivement, j'avais pris l'argent.
Alors, à ce moment-là, il faudrait avoir des bons avocats, il faudrait. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour redonner cette confiance? C'est vrai que le reste, la dernière décision, c'est le juge.
C'est le juge, là. La dernière décision, c'est le juge. Ça me aussi le malheur, c'est que. Chacun voudrait avoir raison.
Oui, c'est évident.
Malheureusement. Chacun voudrait avoir raison. Bon, si le père, il accuse, comme je l'ai dit tantôt, là, il accuse surtout les massages.
D'accord.
Il y a des gens qui reconnaissent ça. Hein? Je connais bien des cas, la collectivité de l'État, de l'État que je suis condamné. Ce sont dans la salle d'audience, il vient avec ses 5 avocats me dire merci.
Ah bon?
Donc il y a des gens, il y a des gens même qui reconnaissent.
Donc il faut vraiment que le juge ait ce flair.
Oui. Il y en a qui font du bon travail. Il y a du bon travail. On ne peut pas dire que tous les magistrats sont mauvais. Mais on trouve, c'est vrai, il faut être honnête, on trouve aussi
de concourir dans le panier. C'est comme ça qu'on l'avait.
Oui, c'est ton responsable, chef, chef d'office de juridiction. C'est ce qu'il y avait. On a besoin d'aller d'ouvrir le dossier disciplinaire pour corriger ce magistrat.
Oui, mais aussi cette préoccupation de l'ingénieur Mangoyo, il voudrait avoir la relation, hein, les relations qui existent entre le commissariat de police et les cours et tribunaux, parce qu'il a trouvé qu'il y a des policiers qui un peu trop. Il voudrait un peu savoir comment ça se passe, surtout avec les officiers de la police judiciaire. Quelles sont les relations?
Tout officier de police judiciaire, en dehors du simple policier, le policier dépend de leur hiérarchie. Mais l'officier de police judiciaire dépend du procureur de la République, du ressort devant lequel il avait prêté serment. Chaque officier de police judiciaire prête serment devant le procureur de la République. Donc il est relève. À ce moment-là, dans l'exercice de ses fonctions comme officier de police judiciaire, il pose des actes sous les contrôles, sous la surveillance du procureur de la République. Un citoyen qui découvrirait qu'il a été lésé par le comportement d'un officier de police judiciaire, il se plaindrait. Il faut voir le chef. Le chef, c'est le procureur de la République, on dénoncerait le comportement.
Non, la hiérarchie policière.
Non, la hiérarchie n'a rien à voir dans les actes posés par un policier en qualité d'officier de police judiciaire. C'est le procureur de la République qui est son chef à ce moment-là. Et souvent, la plupart des autres ont des problèmes avec la meilleure hiérarchie, parce que la hiérarchie veut toujours se mêler dans l'action judiciaire des policiers, officiers de police judiciaire.
Alors, c'est l'officier qui a ce IS qui. Oui, l'OPJ qui fait un lien entre les commissariats de police
et le parquet.
Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas un autre lien, une autre relation avec les commissariats de police, avec le parquet?
Bon, le commissariat de police, c'est lui qui n'est pas OPJ. Parce qu'en fait, dès qu'on constate une infraction dans un commissariat donné, Tous les policiers ne sont pas des OPJ, comme je l'ai dit. Souvent, les chefs hiérarchiques confient les dossiers aux OPJ. Et l'OPJ construit les dossiers en faisant un rapport au procureur de la République. S'il commet une gaffe à l'instruction d'une cause qui est soumise, il répondra comme officier de police judiciaire devant sa hiérarchie judiciaire. Oui. Là, qui n'a rien à voir avec sa hiérarchie administrative.
Il y a encore cette préoccupation, l'ingénieur Mango, qui a constaté qu'il y a une lenteur, par exemple, pour qu'un OPJ puisse se rendre sur le lieu et instruire un dossier. Qu'est-ce que je vais lui dire?
Oui, je crois qu'il n'a pas tort, madame. Il n'a pas tort, mais vous savez, un officier de police judiciaire, tout comme un magistrat, quelle que soit la bonne volonté, il doit aller constater une infraction quelconque, mais il est à pied.
On va dire les conditions de travail.
Oui, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Même les magistrats, il y a des magistrats qui doivent, on dénonce les faits, on téléphone, on appelle les situations, il est à pied. Qu'est-ce qu'il peut faire ça? Au fond, c'est là où nous disons qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, et pour les magistrats, et pour les ingénieurs. Il faut mettre à l'exposition des moyens. À l'époque, je me souviens, nous étions encore dans l'école, on avait donné des Motorola. Avec des téléphones, on a donné des vélos à l'intérieur, des vélos ici,
quelques motos.
Pour permettre à ces agents de se...
Ça n'a pas été renouvelé, entretenu.
Non, malheureusement, on a même donné quelques véhicules dans des parcs, mais une fois tombé en parc, la bonne volonté, il y en a qui l'ont, mais ils n'ont pas les moyens.
Nous allons écouter encore une troisième série d'auditeurs. Nous avons Nico Ambouzine Mazia Kalanga, Jean-Pascal, il se trouve à Imbokolo, c'est en province orientale. Et je rappelle à tous nos auditeurs que nous aurons bien sûr en place l'information qui va un peu entrecouper notre émission. Comme chaque mercredi, nous avons deux parties. Et nous aurons une seconde partie qui va commencer tout après le flash d'information. Nous aurons à peu près 13 minutes d'échange pour poursuivre notre émission. Nico, Mavi et Jean-Pascal, regardez l'écoute. Nous allons vous écouter tout de suite. Après tout, la parole aux auditeurs. Bonjour Nico.
Bonjour, c'est Nico Kabouya qui vous appelle à partir d'un petit moment.
Nous
vous écoutons. J'aimerais vous poser une question à l'invité. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration entre nos tribunaux et la police? Puisque ce que nous voyons en Guyana, c'est autre chose. La police se porte en justice, donc, et fait des sujets de problèmes. En plus, il condamne un des criminels, moyennant la somme dont est suffisante. Donc, des choses c'est terribles. Nous voyons que la police elle peut garder les criminels sauf une semaine, voire même deux semaines. Je ne comprends pas. Et la population préfère aller se plaindre à la police au lieu d'aller se plaindre à la justice. Du fait que non, de notre côté, c'est trop coûté. En plus, on ne juge pas bien. Oh, c'est l'expression qui a été de la vie qui est privilégiée par rapport à celui qui est le problème de notre cas.
Donc, à la police, les gens qui vont à la police estiment que la police trouve facilement des solutions à leurs problèmes à la justice. C'est un peu ça, Nico?
Ok, oui. C'est ça.
Alors, vous gardez l'écoute, hein, vous restez branchés sur Radio Capi, tous nos auditeurs de Mbujimayi sur la 93.8. Vous aurez une réponse à votre préoccupation. Mavé, vous êtes à Kavanga, j'espère que cette fois-là, vous êtes au bout du fil. Bonjour.
Bonjour, monsieur, madame, la journaliste. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Ça n'a pas été facile de pouvoir vous joindre, mais heureusement, vous êtes là. Nous, vous écoutons.
D'accord, merci. J'ai une petite question pour notre invité. C'est en rapport avec la conjoncture actuelle, je dis, c'est mettre un autre problème de les activités qui se passent ici à Kavanga, c'est-à-dire les activités électorales qui se passent pas ici à Kavanga. Là, je me réjouis si je peux poser la question d'autres invités. Est-ce que la magistrature, la justice, est-elle plutôt intégrée dans le processus électoral pour éviter l'obscurité dans les activités électorales de cette année?
Mais donc, vous voulez savoir quel est le rôle de la justice dans ce processus électoral?
D'accord, voilà, c'est ça ma question.
Merci beaucoup, Mavé de Kalanga. Alors, on comprend que vous êtes sur la route parce que même des klaxons de véhicules que nous avons suivis. C'est ça même la beauté de cette émission parce que c'est en direct. Et Jean-Paul, bonjour.
Bonjour.
Je suis à Imbokolo. Et vous me suivez à travers Radio Capi ou bien Radio Partenaire?
C'est Radio Partenaire, Radio Communautaire, El Savan Énergie.
Ah, et c'est sur quelle fréquence, Jean-Pascal?
Sur 94 MHz.
Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Quelles sont vos préoccupations et surtout votre avis?
Et ma préoccupation est celle-ci. J'ai deux questions à poser à notre cher invité, disons, du jour. La toute première, j'aimerais savoir la relation qui existe entre, disons, la police et le tribunal des peines. Il arrive des fois, dans nos contrées, nous voyons que les prisonniers, au quotidien, les prennent plus de 48 heures dans les gardes en vie. Je ne sais pas si notre invité, qu'est-ce qu'il pourra nous dire. Mmh. Et la deuxième question, j'aimerais connaître les magistrats. Est-ce qu'ils sont payés ou ils ne sont pas payés? Car ils s'intéressent beaucoup plus à respecter, disons, la corruption. Et je ne sais pas si notre magistrat et notre invité du jour, on va peut-être nous éclairer sur la vision.
Merci Jean-Pascal, vous êtes à Imbokolo, en province orientale, et vous aurez bien sûr dans quelques instants la réponse à votre préoccupation. Nous revenons dans notre studio avec notre invité, M. Donatien Beau, magistrat honoraire de la Cour suprême de justice. Vous avez suivi nos trois derniers auditeurs. Par exemple, ils sont revenus un peu sur les relations entre la police et les tribunaux, hein, ils se posent beaucoup de questions, parce qu'ils ont l'impression qu'on pose un problème à la police, directement on a une solution, et pourtant justice, on doit ouvrir un dossier, on doit payer, on doit chercher un avocat, on doit attendre le temps qu'il faut pour l'instruction, mais apparemment, ils ont l'impression que la police, c'est vite fait, on vous demande 10 000 francs, 20 000 francs, et on a réglé le problème. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Merci, madame. Ils ont raison. La police utilise des méthodes que les médecins ne peuvent pas utiliser. Souvent, c'est ça. La police force la main à quelqu'un pour payer souvent. Tandis que les magistrats et la déontologie et la procédure respectent les droits de la défense, mais ne peuvent pas utiliser les mêmes méthodes que la police.
Et quelles sont les limites alors de la police? Où un policier peut mener son action?
Il faut qu'on comprenne ça, madame. Mm-hmm. Comme je l'ai dit, ce policier-là, c'est l'officier de police judiciaire. Il a un dossier, il instruit, en principe, s'il y a quelqu'un en détention ou pas, il fait son rapport à l'officier du ministère public, qui est le procureur de la République, son chef. S'il est amené à ne pas tenir l'instruction dans 48 heures, surtout quand il y a quelqu'un qui est mis, qui est privé de sa liberté, il sollicite la prolongation du procureur de la République. Donc il ne peut pas aller au-delà. Surtout quand il a détenu quelqu'un dans son cachot. Alors, si quelqu'un n'est pas, si la personne au cachot, il prend son temps pour inscrire le dossier. Quand il termine, il entend tous les témoins, il réunit toutes les preuves qu'il peut réunir possible, il estime qu'il a terminé et il envoie le dossier à l'office du procureur de la République. C'est vrai, il y a des abus.
Mais alors, pour quelles infractions le policier peut-il demander une amende? Parce qu'il y a quand même des cas.
Oui,
mais dans nos quartiers, nous le voyons. C'est il y a ça. Peut-être une bagarre.
Ouais.
On va au commissariat de la police.
Ouais.
Le policier vient, il arrête.
Ouais.
Et après un moment, la personne est relâchée et sous peine d'une caution ou bien d'une amende.
Oui. La loi, là, les infractions, la loi prévoit. La servitude pénale, c'est-à-dire là, il faut amener celui qui a été arrêté, l'amener devant l'officier du ministère public ou du ministère public au juge. Mais il y a des infractions pour lesquelles il est prévu une amende transactionnelle.
Nous allons revenir parce que c'est assez passionnant, c'est assez intéressant. Le temps d'écouter d'abord le flash d'information.
La Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Urundais. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Deuxième partie de parole aux auditeurs, nous sommes avec notre invité, M. Donatien Mbo, qui est magistrat honoraire de la Cour suprême de justice. Et l'émission d'aujourd'hui, elle tourne les confrontières, les centrées sur l'installation des tribunaux de paix, ces juridictions de proximité. Et avant tout ce classe d'information, nous étions en train de répondre, notre invité est en train de répondre aux préoccupations des auditeurs de savoir quelles sont les compétences de la police dans ce genre, quel genre d'infraction, à quel niveau la police, les limites de la police, ou comment les compétences de tribunal de paix, parce que tous les deux ils sont dans la proximité de la population. Nous allons revenir, nous prenons d'abord Jérôme, c'est Canaille Manix de Kinshasa, les deux auditeurs sont les derniers, puis nous allons revenir sur cette question assez importante pour nos auditeurs. Bonjour Jérôme, c'est Canard.
Bonjour, je voudrais d'abord vous féliciter pour cette édition parce qu'elle va permettre à nos compatriotes de comprendre beaucoup de choses. Notre appareil judiciaire souffre de plusieurs maux et il n'y a pas que la corruption, il y a l'insuffisance de moyens, mais il y a aussi peut-être une mauvaise politique de communication parce qu'il y a les gens ne connaissent pas leurs droits. Et c'est un grand travail que le gouvernement devrait faire. Mais je voudrais relever deux petites choses avant peut-être d'intervenir. C'est-à-dire, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau des instances judiciaires, notre population doit comprendre que personne ne peut débourser de l'argent, donner de l'argent à un policier, même à un magistrat, s'il n'y a pas une preuve de paiement et ça doit se faire après qu'on ait rempli ce qu'on appelle une note de perception. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la plupart des OPG, surtout de la police, consomment à la source l'argent de l'État, c'est un détournement et il faut vraiment être vigilant là-dessus. Les amendes transactionnelles, c'est l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent du commandant, ce n'est pas l'argent du magistrat, ce n'est pas... Et il y a une procédure qui fait que lorsque vous devez payer ces amendes transactionnelles, vous remplissez d'abord une note de perception, vous allez verser dans une banque, là où il n'y a pas de banque, vous allez, le ministre des Finances a le pouvoir de désigner un comptable chez qui vous devez verser. Faire le contraire, c'est encourager le mal parce que cet argent est consommé, c'est ça qui explique la modicité du moyen, des moyens au niveau du budget. Ça, c'est de 1. De 2, j'ai qu'un fort. Nous voulons bien déployer les tribunaux de paix, ce sont des juridictions de proximité, mais j'ai qu'un parce que le gouvernement gère très mal le budget. Je vais vous donner quelques chiffres. Vous savez très bien que 60% de votre budget est consommé par le fonctionnement des institutions consomme plus ou moins 60% de notre budget. C'est illégal, ce n'est pas normal comme ça dans un pays comme le nôtre. Il fallait bien redistribuer les richesses. Vous avez suivi dernièrement, le président de la République a dit il faut que les gouvernements et surtout le Parlement puissent réduire le train de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez par exemple la primature qui a un budget qui est 6 fois le budget de tout l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Comment on peut rendre justice sans moyens? Nos magistrats que nous envoyons là-bas, ils n'ont pas de véhicule. J'ai suivi tout à l'heure votre invité, disait qu'ils sont à pied pour la plupart. Mais il faut d'abord qu'on donne, si on veut avoir un pays de droit, il faut qu'il y ait, l'appareil judiciaire doit avoir les moyens de sa politique. Or, il se fait que même la gestion, le peu qui a été prévu pour donner aux magistrats, n'est même pas versé régulièrement. C'est ce qui explique d'ailleurs la grève des magistrats, vous les avez vu marcher. Donc, le gouvernement doit faire des coupes budgétaires. Il faut couper l'argent qu'on donne au Parlement. Le Parlement a un budget colossal alors que ça ne devrait pas être comme ça. La primature, la présence de la République pour renforcer cette rubrique-là. Et enfin, je voudrais dire ceci, c'est très très important, nous avons un problème sérieux. On a comme l'impression que ce soit les magistrats qui arrivent, qu'on parle, qu'on qualifie les magistrats de la tolérance zéro. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des jugements publics où on condamne de façon systématique l'État congolais, notamment les administrations fiscales, la DGI, la DGDA, la DGRAD. On sont en train de perdre plus ou moins 20 milliards de francs congolais parce à cause des jugements publics. Quelqu'un a fait la procédure judiciaire, la procédure fiscale, réfugiés devant les cours de tribunaux, parfois des cours de tribunaux qui sont incompétents pour trancher ce genre de dossier et qui tranchent en faveur d'un contribuable récalcitrant, et l'État est en train de perdre l'argent comme ça. Et en fin de compte, le budget n'a pas suffisamment de moyens, c'est un simple huissier et les magistrats se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, je souhaiterais qu'un jour vous puissiez nous inviter dans votre émission pour qu'on puisse dire à la population, avec chiffres à l'appui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays, parce que c'est anormal. Le gouvernement Mobutu est en train de gérer par c'est ce qui explique toutes les difficultés que nous sommes en train de connaître pour le moment. Merci.
Merci beaucoup, volontiers, de pouvoir organiser ce genre d'émission, surtout parce que nous aurons dans notre studio un représentant du gouvernement qui peut aussi répondre face à toutes ces accusations. Ce serait assez intéressant. Mais nous avons retenu que vous avez constaté des fuites des ressources, et ce qui ne permet pas une bonne gestion. Vous pensez qu'il faudrait une nouvelle redistribution. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Manix, vous êtes ici aussi à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Madame Chantal, je ne suis pas à Kinshasa, je suis en Boujoumal.
Oui, donc Boujoumal, nous vous écoutons, Manix.
Oui, je dis grandement bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati, c'est en Boujoumal, papa Kennedy, dans mamie.
Bien sûr, nous allons renverser cela, nous allons verser cela dans au Kati dédicace. Nous avons une émission spécialisée pour les coucous et les bonjour. Nous vous écoutons. Quel est votre avis concernant les tribunaux de paix?
Et puis, ma préoccupation était de savoir pourquoi ici en Boujoumal, nous n'avons pas une justice très dure que nous pouvons aussi retenir, qui a quand même des poids.
Donc, la confiance en la justice. C'est aussi votre préoccupation. Merci, Manix. Nous n'avons pas beaucoup de temps, hein, parce que nous prenons Nicole, ce sera la dernière auditrice de cette émission. Bonjour, Nicole.
Bonjour.
Nicole, vous intervenez de Mbandaka, vous avez juste une minute. Quel est votre avis?
Oui, Bon, je voulais dire ceci. Comme l'invité avait dit que le tribunal de paix connaît des infractions punissables au maximum de 5 ans de sanctions pénales ou d'une amende de 5 ans. Mais ça se fait qu'il y a des juges qui dépassent de l'argent là. Au lieu de 5 000 francs, ils demandent plus, 5 000, plus de 5 000 francs. Bon, par rapport à la détention préventive, il y a de prévenus qui fait plus de une semaine, un mois chez l'OPJ. Dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment normal parce que normalement, chez l'OPJ pour la détention préventive, donc le prévenu doit faire 24 heures, mais je crois que c'est adéquat. Et il y a aussi des OPJ, être ici, on les a envoyés pour. Donner une personne de mandat de comparution. Quand on parle de mandat de comparution, c'est lorsque on oblige la personne à adresser ou de se présenter librement devant le magistrat du parquet. Mais ça se fait que, ici à Mbandaka, il y a des OPJ et des soldats, quand ils viennent déposer le mandat de comparution, ils ne déposent pas le mandat de comparution, mais ils sont venus pour arrêter la personne qu'on a envoyée pour déposer.
Donc vous avez constaté ce dysfonctionnement.
La justice doit être saine dans notre pays.
Merci beaucoup, Nicole de Mbandaka. Nous redonnons la parole à notre invité. Vous avez constaté avec nous que c'est vraiment un problème réel. Maintenant, si on arrivait à installer tous ces tribunaux de paix, s'ils arrivaient à être fonctionnels, est-ce que ce sera facile, par exemple, de connaître les limites de la police et ceux des tribunaux? Nous vous écoutons.
Oui, madame. Je veux de voir tous ces tribunaux de paix fonctionner. Si ces tribunaux fonctionnaient, ça n'anéantirait l'intervention de la police dans beaucoup de situations. Étant donné que le magistrat est loin de la population, là où se commettent quelques délits, c'est la police qui se fonctionne. Évidemment, j'ai apprécié l'intervention d'un auditeur de Kinshasa qui a dit et qui reconnaît aussi que les Congolais ignorent ses droits. Nous ignorons nos droits. Parce que si chacun connaissait son droit, devant la police ou devant les magistrats, il réagirait comme quelqu'un qui connaît ses droits. Parce que il n'y a aucun qui est tout puissant, qui est Dieu. Chaque magistrat a sa hiérarchie. Chaque policier, officier de police judiciaire, a la hiérarchie.
C'est qu'on appelle les gardiens des gardiens.
Oui. Alors, dès que vous constatez un comportement répréhensible dans le chef d'un préposé de l'État, c'est votre droit de rencontrer la hiérarchie et de dénoncer le comportement. Mais souvent, on ne le fait pas. On se contente de se plaindre, souvent nous sommes aussi à la cité, les gens nous voient, mais mieux vaut faire valoir ses droits, et ça pousserait aussi à ceux qui commettent des abus de limiter cela.
Et qui doivent expliquer, sensibiliser la population sur leurs droits?
Évidemment, il y a un temps, je ne sais pas si vous étiez, vous êtes là, je vous avais dit, à l'époque, je citerais Sina Oudjou, comme président du conseil judiciaire. On avait, il y avait des journées ouvertes, une fois par semaine dans toutes les juridictions, où il y avait des magistrats dans chaque juridiction, dans chaque office, désignés pour recevoir les doléances, tout le monde. Où on allait dans une salle d'audience, les gens venaient entrer et ils posaient chacun son problème. C'est ce qu'ils voulaient initier des procédures, ils posaient le problème, ils demandaient des conseils, on les disait et on les orientait. Alors, partout à l'intérieur, il y avait par office, par juridiction, un magistrat chargé de donner des informations à la population. Ici, je ne sais pas aujourd'hui si ça fonctionne encore, et là, on vous enseigne parce qu'il y aura ce droit. Souvent, on s'attaque aux animateurs qui sont les magistrats, c'est vrai, ils ne sont pas toujours très profs.
Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette émission. Vraiment, nous vous remercions d'avoir accepté de participer à cette émission d'échange avec les auditeurs. Nous disons également merci à tous les auditeurs, à ceux qui nous sont intervenus aussi, ceux qui nous ont écoutés avec beaucoup d'attention, que ce soit en FM ou connecté sur le www.radiocapi.net.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Et nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Demain, ce sera la journée internationale de l'alphabétisation. Et l'objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation dans la société. Selon l'UNESCO, des chiffres de 2010, nos pays, la RDC bien sûr, pourraient compter plus de 18 millions d'analphabètes, dont un grand nombre de femmes. Les statistiques font de la RDC l'un des 35 pays où l'analphabétisme présente un grand danger. Comment réduire le taux d'analphabète en RDC? Réalité dès à présent, nous écrivons à l'adresse internet ca@radiocapi.net. Nous vous remercions à Kiki Poutou et à Sylvama Kimbou qui ont réalisé demain de match cette émission. Entre-temps, restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes.